franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Une explosion ce matin à Dieppe dans une usine de production d'huile a fait 2 morts, 2 techniciens de maintenance. Tout le quartier a été confiné. Les causes exactes de l'accident restent ce soir indéterminées. Ces propos ont été illégalement enregistrés. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, dénonce la diffusion dans l'émission quotidienne de ses échanges avec des étudiants jeudi soir à Lyon. Échanges au cours desquels il taclait notamment Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et le transfuge des Républicains, Gérald Darmanin. Les urgentistes de plus en plus inquiet de la situation à l'hôpital, il dénonce un manque de moyens et de considération des personnels. Dans ce journal également, des Français en déroute à Pyeongchang où le compteur des médailles est toujours bloqué. La mort d'un pionnier de l'internet libre, John Perry Barlow, 70 ans, auquel Christine Siméon rend hommage dans sa vie connectée. Un violoncelle du 18e siècle qui retrouve sa propriétaire, son voleur, sans doute pris de remords, le lui a rapporté. Et puis la météo, un temps souvent ensoleillé demain, sauf sur la façade atlantique.
France Inter.
2 morts à Dieppe ce matin dans une usine de production d'huile. 2 techniciens d'une société de sous-traitance qui étaient en intervention dans un atelier d'extraction. Ils ont été tués dans une explosion dont les causes exactes restent encore ce soir indéterminées. L'incendie qui s'en est suivi a vite été maîtrisé, mais beaucoup de frayeur pour les riverains. Sixtine Lys à Dieppe.
Valérie et son conjoint étaient dans la rue au moment de l'explosion. Ils habitent à quelques mètres de l'usine.
On a entendu un gros boom. Donc on pensait à un accident de voiture. Donc on s'est retourné et on a vu une espèce de boule noire sortir de l'usine avec des flammes, quoi.
Ça a fait une boule de feu gigantesque.
Boule noire avec des feux, quoi.
Très haut. Plus haut que la cheminée.
Héloïse habite en face du site. Les murs de sa maison ont tremblé. C'est un choc pour elle.
Les flammes étaient atroces. Atroce. Au point qu'on a pleuré. S'il y a une résonance dans la maison, c'est incroyable. Bah oui, c'est une bombe, il n'y a pas à dire.
Malgré la consigne de confinement, Héloïse fait ses bagages.
Alors, je ne vais pas rester là, c'est pas la peine. Je préfère m'en aller chez mes enfants et puis revenir attendre que ça se passe, parce que là, je ne vais pas dormir.
Cet habitant du quartier a assisté à l'explosion depuis le pont Colbert au bout du bassin. Il a tout de suite su que ça venait de l'usine Cepol.
C'est impressionnant. Le bruit, le panache de fumée, les flammes. Première pensée aux gens qui travaillent dedans et aux familles, en fait.
Christophe, justement, est un ancien salarié de l'usine. Il fait le pied de grue devant l'entrée du site. Il est bouleversé.
J'ai travaillé 39 ans ici, donc je me pose des questions. Depuis ce matin, 10h, est-ce qu'on m'a prévenu qu'il y avait une explosion? Donc je suis venu. Bah, c'est plus qu'une famille quand vous travaillez 39 ans dans la même entreprise.
Une cellule d'urgence médico-psychologique est mise en place pour porter assistance aux employés et aux membres des familles.
Une personne a été légèrement blessée et 7 autres effectivement choquées. L'usine de Dieppe qui transforme les graines de colza en huile végétale et en tourteau pour l'alimentation animale n'est pas classée Céveso. Elle emploie 40 salariés. Des propos enregistrés de façon illégale. Le président des Républicains et président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, dénonce la diffusion dans l'émission quotidienne sur TMC des propos qu'il avait tenus la veille à Lyon devant les étudiants d'une école de management. Propos qui n'avaient pas vocation à être reproduits. Le cours, explique Laurent Wauquiez, devait amener les étudiants à réfléchir sur les rumeurs et les fantasmes qui nourrissent la vie politique. D'où sans doute ces déclarations sur Nicolas Sarkozy qui écoutait les portables de ses ministres pendant les conseils des ministres, ou Emmanuel Macron qui aurait mis en place une cellule de démolition de François Fillon pendant la campagne. Mais le plus marquant de ces propos, Élodie Forest, c'est peut-être l'attaque en règle qui visait son ex-collègue des Républicains, Gérald Darmanin.
Oui, dans ce flot de moqueries et d'accusations, la charge la plus violente, c'est sans nul doute celle contre Gérald Darmanin, le ministre toujours visé par une plainte pour abus de faiblesse et qui depuis des semaines clame son innocence, se fait traiter de Cahuzac puissance 10. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il va tomber, dit Laurent Wauquiez. En visite ce matin dans le Gers, Gérald Darmanin a répondu prudemment.
Je suis très étonné, comme tout à chacun d'entre vous, que de tels propos puissent être tenus dans des cours dans une école de commerce. À part m'inquiéter de certains enseignements dans certaines écoles de commerce, je n'ai pas de déclaration à faire pour l'instant.
Laurent Wauquiez a lui aussi réagi ce matin. Ce sont des propos tenus dans un cadre privé, parfois sur le ton de l'humour. Des propos sortis du contexte, le défend aussi Laurent Cellier, la porte-parole du parti. Mais étonnamment, si le chef de file des LR dément tout ce qu'il a pu dire sur Nicolas Sarkozy auprès du duquel il s'est d'ailleurs excusé. En revanche, rien sur son ex-collègue Darmanin. Alors qu'en déduire? Laurent Wauquiez a-t-il sciemment voulu que ses propos fuitent? A-t-il sciemment envoyé un message politique? Il est en tout cas difficile de croire qu'il n'ait pas pesé ses mots, souligne un politologue. Si Laurent Wauquiez voulait faire le buzz, il ne s'y serait pas pris autrement.
Les principales réactions sont venues de la majorité, du président de La République En Marche, notamment Christophe Castaner, qui dénonce le cynisme, l'outrecuidance, la théorie du complot de Laurent Wauquiez, et du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui parle d'injures et de vulgarité. Des années qu'il tire la sonnette d'alarme pour les hôpitaux, les urgentistes de France, réunis à Paris ce samedi, interpellent à nouveau la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour dénoncer ce qu'ils appellent un management destructeur, un manque de moyens et de considération des personnels qui aboutit, selon le porte-parole de leur association, Christophe Prudhomme, à une désorganisation profonde du système, il l'a dit à Fiona Mogadam.
On demande un moratoire, on arrête de fermer des lits, on arrête les plans d'économie. On se met autour de la table avec ceux qui, a priori, sont les mieux à même de dire ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire les personnels hospitaliers. Le système est en train de craquer de partout. Il y a un manque de dialogue social et on est étranglé financièrement. Et on a un management qui est issu de l'entreprise qui nous tue et qui tue les collègues avec la multiplication des suicides. Et il n'y a pas que des médecins, il y a les infirmières, il y a les internes, il y a les aides-soignants. Donc la situation aujourd'hui psychologique des personnels de santé, c'est la colère, mais la souffrance. On est là pour soulager la souffrance de nos patients. Et on souffre nous-mêmes. C'est impossible. Aujourd'hui, on veut être entendu parce qu'on veut avoir les moyens de travailler correctement pour soigner correctement nos patients. Vous savez, cette dame de 88 ans qu'on a mis dehors des urgences de Saint-Malo sans chaussures, c'est inhumain et inadmissible. Et ça, on veut pas que ça se reproduise. Or, c'est le quotidien dans de nombreux hôpitaux.
Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes et de la Fédération CGT Santé. Eux réclament un tarif minimum et la baisse des commissions prélevées par les plateformes. Et pourtant, les chauffeurs de VTC appelés à la grève aujourd'hui n'ont pas été au rendez-vous, sauf peut-être à Nice, où des dizaines de manifestants ont filtré les accès à l'aéroport. Mais à Roissy, les quelques chauffeurs qui s'étaient rassemblés ce matin ont vite levé le camp, Benjamin Mathieu.
VTC contre VTC, la manifestation parisienne des chauffeurs a tourné court, organisée par la CFDT qui espérait au moins une centaine de voitures pour réaliser une grande opération escargot de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. C'est à peine une quinzaine qui finissent par former le cortège. Yazid Zekri de la CFDT.
Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont eu peur et qui sont partis quoi. Alors on ne sait pas, il y a peut-être des gens derrière qui font que ça capote, certainement.
Ils sont en train de jouer avec nous.
Car d'autres syndicats comme FO, Kappa, VTC revendiquent eux la vraie légitimité de ce mouvement. Ils sont donc intervenus, parfois brutalement, pour perturber cette journée de mobilisation. Amine Moubiou est le secrétaire général de FO Kappa VTC.
On essaie de se battre pour que le métier soit régulé et respecté, tout simplement. Nous, on a 15 euros de la course minimum, avec le kilométrage minimum à 1,50€ et la minute à 50 centimes.
Et de façon assez incompréhensible, les revendications de la CFDT sont quasiment les mêmes, comme nous le confirme Mehdi.
En fait, on demande la tarification minimum sur les premiers kilomètres. Ensuite, après, on est sur une tarification qui est moins élevée que les taxis.
Le mini-cortège a finalement quitté Roissy en fin de matinée, direction le ministère du Travail. Mais le message porté est inaudible et l'opération de faible ampleur.
Ce qui a provoqué de gros ralentissements, en revanche, c'est la nouvelle manifestation des motards contre la réduction de la vitesse autorisée à 80 km/h sur les routes secondaires. 1h30 de retenue cet après-midi à l'entrée de Limoges sur la 20 par le nord. 1 demi-heure de ralentissement au sud. Tariq Ramadan, hospitalisé, l'islamologue suisse écroué et mis en examen pour viol depuis le 2 février, dit souffrir d'une sclérose en plaques. En attendant l'expertise médicale ordonnée par la Cour d'appel de Paris, dont les conclusions devraient être rendues demain, il a été placé hier soir dans un établissement hospitalier d'Île-de-France. Pour ses avocats, son état de santé n'est pas compatible avec un maintien en détention. Et puis un général pour réfléchir au futur service national universel voulu par Emmanuel Macron, c'est le général Daniel Mellaouine, ancien chef d'état-major de la mission des Nations Unies au Mali, qui dirigera le groupe de travail, lequel sera composé de 6 autres personnalités, dont Juliette Méadel, ancien secrétaire d'état de François Hollande chargé de l'aide aux victimes. Leur conclusion sur le service national universel devront être remises au gouvernement fin avril.
Le journal de 19h. sur France Inter.
Jour de fête au Kosovo ce samedi pour les 10 ans de l'indépendance, ou plus exactement de la déclaration d'indépendance, qui n'a toujours pas été reconnue par les Serbes. Le conflit du Kosovo à la fin des années 90 avait fait 13 000 morts. Il avait fallu 11 semaines de frappes aériennes sur la Serbie pour y mettre un terme. Depuis, une mission de l'ONU et une force de l'OTAN assure la sécurité du territoire, dont le sort n'est pas près d'être réglé. Laurent Rouy à Pristina.
Marko Djuric, le directeur du Bureau pour le Kosovo, une institution liée à Belgrade, parle du 10e anniversaire du déni du droit international. Mais il appelle tout de même à une solution qui satisferait et les Serbes et les Albanais. Le président serbe Aleksandar Vučić s'est également exprimé. Il explique que s'il n'est pas question pour la Serbie de reconnaître l'indépendance de son ancienne province, plusieurs modèles de résolution de ce conflit gelé existent. Pour Vučić, une éventuelle solution de compromis passe d'abord par un changement d'attitude de l'Union européenne. Selon lui, l'UE ne fait qu'exercer des pressions sur la Serbie. Quoi qu'il en soit, le thème de la résolution du conflit avec le Kosovo est entré dans le débat public en Serbie. De même à Pristina, le président kosovar dit vouloir trouver une solution cette année. La volonté apparemment commune des deux présidents pourrait réserver des surprises. Pristina, Laurent Rouy, France Inter.
Aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, une nouvelle journée blanche pour les Bleus, c'est le cas de le dire. Le compteur des médailles est resté bloqué à 7. Raté pour les Françaises dans la mass start du biathlon, Marie Dorin 9e. Raté pour Tess Ledeux, championne du monde du slopestyle en ski acrobatique, éliminée dès les qualifications. En ski alpin, c'est le zéro pointé. Tessa Worley a fini 28e du Super G. La meilleure Française, Romane Miradoli, est 19e. Il y a, comme qui dirait, un petit problème, Richard Vivion.
Il suffit de voir les larmes de Tiffany Gauthier, 22e de ce Super G olympique, pour comprendre la détresse de la jeune skieuse. « J'ai fait le maximum », dit-elle, et on veut bien la croire. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas l'envie, mais bien le niveau technique.
En tout cas, pour moi, non, c'est pas simple. Mon engagement, honnêtement, j'ai tout donné, donc j'ai aucun regret là-dessus. C'est juste ma technique qu'il va falloir que je revoie un peu. Et c'est comme ça, je me bagarre depuis un moment pour ça, et là, on n'y arrive pas, donc... Va falloir prendre un peu sur soi et avancer, ouais.
En Super G ou en descente, les deux épreuves de vitesse, cela fait maintenant 5 ans que plus aucune tricolore n'a brillé sur la scène mondiale. Alberto Segagliesi est l'entraîneur des skieuses françaises.
C'est déjà mieux que l'année passée, on fait des petits pas en avant. Je dis, il faut être patient. Et c'est sûr que là, on est au JO, tout le monde s'attend d'une médaille. Mais on ne peut pas rêver d'arriver aujourd'hui parce que c'est les JO. Et de dire on va gagner une médaille ou on va être dans les top 5.
Et mercredi prochain, pour la descente olympique, les Françaises tenteront de faire un petit pas de plus. Cela ne devrait pas les emmener jusqu'au podium, mais une place parmi les 10 premières serait déjà un petit exploit. Pyeongchang, Franck Ballanger, Richard Vivion pour France Inter.
Et tout va bien en revanche pour la Norvège, dont le relais féminin emporte l'or en ski de fond, de l'or aussi en biathlon pour la Slovaque Kuzmina, et pour la Tchèque Ledeska, venue du snowboard et désormais championne olympique du Super G. À la surprise générale chez les hommes, le Japonais Anyu a conservé son titre de Sochi en patinage artistique. En Ligue 1 de football, le PSG qui se remet de sa défaite à Madrid, c'est plus facile en championnat, 5-2 à l'instant au Parc des Princes contre Strasbourg. En Ligue des champions de And, l'autre PSG, s'est assuré la première place de son groupe en battant les Allemands de Flensburg, 29-21 à Coubertin. Et puis dans le top 14, Toulon, facile, au stade Mayol face au stade français, 43-5. Allez, qui connaissait John Perry Barlow? Il est mort la semaine dernière en Californie à l'âge de 70 ans. Ce qui ne pouvait pas vous échapper, Christine Siméon, dans votre vie connectée. Bonsoir.
Bonsoir Yves.
John Perry Barlow était un pionnier de l'Internet libre.
Les paroles de cette chanson, Yves, ont été écrites par ce John Perry Barlow, qui était donc poète, parolier du groupe The Grateful Dead et pionnier de l'Internet libre. Il est connu pour sa déclaration d'indépendance du cyberespace en 1996.
96, c'est pas d'hier, hein. On en était évidemment aux prémices d'Internet.
Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé, disait sa déclaration. déclaration. Dit comme ça, ça paraît très beau.
Alors une déclaration qui précise qu'Internet se régule lui-même avec ses propres codes basés sur l'éthique de réciprocité.
Oui, et l'enjeu à l'époque, c'était de se dégager des contraintes, voire de la tyrannie imposée par le gouvernement. Et les États, en général, ce n'était pas d'échapper aux GAFA qui n'existaient pas. Je vous laisse écouter un extrait de cette déclaration avec John Perry Barlow.
Gouvernement du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous, du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons.
Alors, pas question que les gouvernements viennent régenter cet espace de pensée et de liberté, mais tout cela ne vaut plus grand-chose aujourd'hui.
Oui, le rêve d'un Internet libre, gratuit, sans frontières est resté un rêve.
Car aujourd'hui, on s'insulte sur le net, on est censuré en Chine, Internet est payant et doublé d'un Darknet. Bref, le rêve se serait envolé.
Presque au lendemain de la mort de Barlow. Toutefois, le chercheur français Olivier Herched a publié une nouvelle déclaration d'indépendance du cyberespace, en s'adressant cette fois-ci plus aux GAFA qu'au gouvernement, puisque ce sont leurs algorithmes qui font la loi. Pas désespéré du tout, Olivier Herched explique « Au début, Internet, tout beau, tout nouveau, était libre. Désormais, on est dans une phase de crispation, mais il espère un avenir meilleur. »
Ce sont des espèces d'étapes nécessaires. Dans les logiques d'émancipation, il y a toujours un moment où l'outil apparaît pour faire des choses positives pour la société. Et puis très vite, quand une technologie apparaît, elle est détournée pour des intérêts partisans, obscurs. Et on est à ce moment. Et à ce moment-là, il faut qu'un certain nombre de gens, des citoyens lambda, des chercheurs, des universitaires, des politiques, s'emparent de ces questions et disent voilà, si on ne fait rien, si on laisse les choses aller comme elles vont, on risque effectivement d'entrer dans une forme de dystopie.
Et c'est donc à vous de jouer, Yves, de charger des logiciels libres sur vos PC, de changer de navigateur ou de moteur de recherche, à vous de gagner votre liberté.
Et oui, c'est pas plus compliqué que ça finalement. Une interview d'Olivier Herched à retrouver sur franceinter.fr. Tout est bien qui finit bien pour la violoncelliste Ophélie Gaillard. C'est la belle histoire du soir pour terminer. Belle histoire si l'on peut dire, parce qu'elle s'était fait voler jeudi à Pantin, en banlieue de Paris, un violoncelle du 18e siècle, un instrument estimé à plus d'1 million d'euros que son agresseur avait emporté après l'avoir menacé d'un couteau. Ses appels désespérés dans les médias ont finalement été entendus par le voleur qui lui a rendu l'objet précieux. Elle-même l'a dit à l'AFP, elle a reçu un appel anonyme lui disant que le violoncelle était devant son domicile dans une voiture et elle l'a effectivement retrouvé ce matin sur la banquette arrière. Tout n'est donc pas pourri au royaume des voleurs comme le savait si bien Georges Brassens.
Prince des montants l'air et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Autre signe indiquant toute absence de tare, respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru décent de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat.
Voilà, Georges Brassens, un voleur peut avoir des remords. Le violoncelle a donc été retrouvé, mais l'enquête se poursuit, évidemment. Elle a été confiée à la brigade de répression du banditisme.
Merci à vous, Yves Decamp.